présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la deuxième époque de Violence et Crépuscule, Imami. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Tourne dans sa tête. Quitter ceux pour qui il a été programmé, il ne sait plus, ne comprend plus. Est-ce ça l'amour? Il ne sait plus. Et puis ses cris, ses pleurs. Il a beau chercher dans son cerveau à trouver une réponse, il ne trouve rien. Alors, il s'interroge toute la journée. En travaillant, la tête toute retournée. Elle, pendant ce temps, prépare son départ, fait son sac et ramasse son argent. Yves est au salon, il dépoussière en réfléchissant. Antoinette est assise dans un fauteuil à lire un livre. Tout à coup, il a fait tomber un vase. Le bruit a fait lever la tête à la mère. « Mon Dieu, le vase de Chine de ma grand-mère !» Elle se lève, va vers lui. « Qu'avez-vous fait? Il est en miettes. Je vais ramasser. » Elle lui dit. « Bien sûr, il n'en reste plus que ça à faire. » Il se baisse. Il ramasse des morceaux à terre. Elle le regarde faire.
hausse ses épaules et sort du salon. Elle va au bureau de son mari, qui est au premier. Il est assis à son bureau devant des factures. Elle va vers lui.
Julien.
Oui.
Le robot.
Il lui dit.
Yves, pas le robot.
Comme tu voudras. Yves, eh bien, il a cassé le vase de grand-mère.
Comment se fait-il?
Elle lui dit. J'ai remarqué que depuis quelque temps, il n'était plus tout à fait le même. Il semblait distrait. Enfin, tu vois, comme si un robot était discret.
Tu aurais dû m'en parler avant. Nous allons téléphoner à Riquin pour qu'il voie ça. Il a peut-être un petit réglage à faire.
Prends le téléphone pour faire le numéro.
Allô? Je suis bien à la clinique Jeune Tout? Oui, j'aimerais parler à Monsieur Riquin. Je suis Monsieur Devos. Oui, c'est urgent. Allô? Allô? Ah, allô, Monsieur Riquin, bonjour. Oui, nous avons des problèmes avec notre robot, Yves. Depuis quelque temps, il ne marche plus tout aussi bien. Il a même cassé un vase de très grand prix. Bien, merci, monsieur.
Après avoir raccroché, il dit à sa femme,
« Il va venir de suite. Nous n'avons qu'à attendre. Tu vois, c'est pas plus compliqué que ça. Ah, la garantie Jeune Tout, c'est quelque chose. »
Une heure plus tard, Riquin est chez eux, dans le salon. Il leur demande
« As-tu mangé quelque chose de spécial ?» La mère lui répond « Non, pas que je sache.
Bien, vous allez le faire venir, je vais l'examiner. » Le père sort du salon.
Il rencontre sa fille dans le couloir et lui demande « Tu as vu Yves ?»«
Non, pourquoi ?»« Parce que je veux le montrer à Riquin. »«
Qui est-ce ?»«
Disons celui qui s'occupe de sa santé, de sa mécanique. »
Elle lui dit « Vous êtes dégoûtant de parler comme ça. »
Son père lui dit « Et comment veux-tu que je le dise ?»
Yves passe dans le couloir. Julien lui dit «
Yves !» Venez avec moi, vous allez aller au salon.
Yves lui dit, ce sujet du vase que j'ai cassé, monsieur?
Oui et non.
Nicole demande, quel vase?
Son père lui dit, celui de ta grand-mère. Et ta mère est dans tous ses états.
Yves suit Julien.
Entrez.
Là, il retrouve Riquin et Antoinette. Riquin lui dit, venez ici, Yves, approchez-vous de moi. Yves s'approche.
Riquin lui demande, comment allez-vous, Yves?
Très bien, monsieur.
Il n'y a rien qui vous tracasse?
Non, monsieur.
Montrez-moi vos mains.
Bien, elles sont bien blanches.
Il lui regarde les yeux.
Non, ça semble aller.
Il passe la main devant les yeux. Puis, tape les mains vers les oreilles, tire les cheveux, ouvrez la bouche, ça va, mettez-vous torse nu.
Il s'est déshabillé, Riquin lui écoute le corps, si l'on veut.
Ça va, asseyez-vous. Il lui tape pour les réflexes. Non, ça va. Maintenant, marchez. Ça va. Prenez ce livre.
Ça semble aller.
Quelle est la chose qui vous paraît étrange ?
Il lui dit, amour, Riquin lui dit. Qu'est-ce que l'amour ? Je cherche, je ne trouve pas. Bien, très bien. Pourquoi avez-vous cassé le vase ?
Je ne sais pas, amour.
Riquin fronce ses sourcils et lui dit,
est-ce que vous ne savez pas faire une chose ?
L'amour.
Mais qu'est-ce que l'amour ?
Je ne sais pas. Riquin touche la tête, la colonne vertébrale. Il demande à Julien,
a-t-il eu une secousse électrique ou des ondes qui auraient pu le déprogrammer ?
Non, je ne vois pas.
Riquin dit à Yves, c'est bien Yves, vous pouvez disposer.
Et Yves sort de la pièce.
La mère demande à Riquin,
alors docteur ?
Riquin lui dit, il n'y a rien à faire, il faut le détruire. Ce genre d'appareil est trop compliqué et ça coûterait trop cher pour le réparer. Alors il vaut mieux c'est le détruire et en prendre un autre. Ne vous en faites pas, j'ai vos informations sur disquette. On vous en amènera un autre assez rapidement.
Julien lui demande, qu'est-ce que vous allez en faire ?
Le brûler, voilà tout. Ce n'est qu'une chose. Je peux le prendre maintenant si vous le voulez, le père lui dit.
Oui, allez-y.
Bien, je vais le prendre. La porte s'ouvre. Elle est toute tremblante. Elle court vers eux.
J'ai tout entendu ce que vous avez dit. J'ai pas tout compris. Mais c'est horrible ce que vous allez faire.
Ton père lui dit, mais pourquoi te mets-tu dans tout cet état-là, ma chérie ? On ne fait rien de mal.
Mais qu'est-ce que c'est alors ?
Il lui dit, nous étions simplement en train de traiter une affaire domestique.
Quoi ? Quelle affaire domestique ?
Sa mère lui dit, une simple panne mécanique.
Elle se met la main sur la tête et crie,
je ne comprends pas, je ne comprends pas.
Riquin lui dit, calmez-vous, calmez-vous. Nous parlions simplement d'Yves.
Il lui dit, c'est bien ce que j'avais compris.
Son père lui dit,
eh bien, voilà.
Nicole lui demande,
et qu'allez-vous faire ?
Sa mère lui dit, eh bien, il ne marche pas bien. On va le remplacer.
Nicole dit, comment ? Vous allez remplacer Yves, comme ça ?
Son père lui dit,
oui, bien sûr, pourquoi pas, tu sais.
Et qu'allez-vous faire d'Yves ?
Riquin, lui, dit, car il est un peu sadique et sait ce qui en est vraiment et veut lui faire du mal comme ça,
eh bien nous allons le brûler.
Nicole va vers lui.
Vous allez le brûler, vous dites ça comme ça ? Comme si c'était un meuble, une machine ?
Riquin lui dit, mais c'est une machine.
Et elle lui crie, non, c'est pas vrai, c'est faux.
Son père rit et demande à sa mère,
tu ne m'as pas dit ?
Non.
Son père lui dit,
mais voyons, ne fais pas, ne te fais pas de soucis. On ne t'a pas dit que c'était une machine. Et c'est bien imité, hein ? Tu t'y es laissé prendre.
Nicole lui crie,
c'est pas vrai, c'est faux, vous mentez tous.
Et elle se sauve en courant.
Son père lui crie,
Nicole, Nicole, ma chérie.
Riquin lui dit,
laissez-la, elle veut s'en rendre compte d'elle-même.
Ce n'est rien, demain elle n'y pensera plus, avec l'autre qui va la remplacer, et s'appellera aussi Yves.
Au fait, rien ne change, c'est comme les domestiques d'antan, où on appelait toujours Marie toutes les domestiques et depuis des générations, comme pour nos robots. Nicole va vers Yves, le retrouve au jardin et lui dit en pleurs «
Mes parents disent, et deux hommes, que tu n'es pas un humain, que tu es un robot. Tu n'es pas comme nous. C'est pas vrai, dis. »
Elle le regarde bien, le touche. Yves lui demande « Pourquoi je ne suis pas comme vous ?»«
Parce que tu es une espèce de robot. » »«
Je ne comprends pas. Je suis comme vous. » Elle lui dit,
moi je te crois, mais eux non.
C'est des menteurs.
Elle lui dit, ils veulent te brûler, te tuer.
Qu'est-ce que tu es ?
Elle lui dit, c'est la fin de tout, le contraire de l'amour, c'est la nuit.
Je ne comprends pas. C'est comme l'amour ? Elle lui dit,
il faut que tu comprennes, parce que si tu ne comprends pas, tu n'es pas un humain.
As-tu déjà eu mal ? Je ne sais pas. Elle comprend.
Oh mon Dieu ! Que m'est-il arrivé ? C'est déjà trop tard. Yves, pourquoi ? Est-ce que tu ne souffres pas ?
Je ne sais pas. Elle lui dit.
Moi je le sais. Et pourtant je t'aime. Je t'aime. Je t'aime malgré ça. Ils vont venir te prendre et te faire. Il faut fuir. Autrement, ils vont te tuer. Et c'est terrible. C'est terrible.
Il lui dit, oui, je veux fuir. Elle lui dit,
moi aussi. Ils me dégoûtent tous. Tu es plus humain qu'eux.
D'un coup, il voit y arriver vers eux Riquin. Elle lui dit, vite, fuyons! Il court vers la sortie du parc. Riquin crie, Yves, venez! Yves continue à courir.
Yves, c'est un ordre, venez!
Elle dit à Yves, continue à courir. Il n'a plus d'ordre à te donner. Tu es libre. Il veut te tuer. Il continue à courir. Tout d'un coup, elle glisse sur une plaque de graisse et se fait mal à la chemise.
Ah !
Yves se baisse pour la relever. Riquin est près d'eux. Riquin lui dit, Yves, il faut que vous veniez avec nous. Yves lui dit,
non, je ne veux pas aller avec vous. Vous allez me donner la mort. Je ne veux pas.
Riquin lui dit, tu es programmé pour obéir. Tu ne peux pas comprendre la mort. Tu ne sais pas ce que c'est.
Si j'ai compris, c'est mauvais, c'est la fin de tout, c'est le contraire de l'amour.
Riquin lui dit,
mais Yves, tu ne peux pas, tu es un robot. Non, je suis un humain, je suis comme vous. Non, tu n'es pas comme nous. C'est faux, je suis un humain. Je ne suis pas un robot, tu es un robot.
Yves lui dit, qu'est-ce qu'un robot ?
Nicole dit à Riquin.
Voyez bien, vous ne pouvez pas détruire Yves comme une vulgaire machine. Il est humain, oui, humain, et plus humain que beaucoup de personnes. Laissez-le tranquille.
Riquin lui dit, je comprends mon enfant. Tu es ému, mais Yves n'est fait que de briques et de braques et ne marche plus bien. Il faut l'éliminer. Je te promets que tu en auras un autre exactement semblable.
Elle lui dit, si je brique de braque, comme vous dites,
Mais nous aussi. Mais au lieu que ce soit en plastique, c'est de la vulgaire chair qui pourrit. Vous voyez? Vous voulez m'en donner un autre? Mais Yves est unique. Lui, c'est l'amour. Yves dit, oui, je suis amour. Elle se plaque contre lui. Riquin furieux lui dit, c'est ridicule tout ça. Il n'est pas humain. C'est comme si vous alliez aimer une machine à laver. Nicole lui dit, ça ne vous regarde pas. Et je veux le garder, parce que je l'aime. Yves dit, oui, elle m'aime. Riquin lui dit, c'est impossible que tu aimes. Tu n'es pas programmé pour ça. Et puis, qu'est-ce que l'amour pour toi? À part un mot appris par cœur. Je suis humain. Non, je vais te le prouver. Cela suffit. Donne-moi ta main. Et tu vas voir si tu es humain. Yves lui donne sa main. Riquin sort un canif de sa poche. Nicole lui dit, je vous interdis de lui faire du mal. Riquin lui dit, il n'aura pas mal. Je vous l'assure. Il ressent le chaud, le froid, le poids, la forme des choses dans sa main, mais pas la douleur. Si tu ne ressens pas la douleur, c'est que tu n'es pas humain. Je suis humain. Nicole lui dit, vous êtes adjet. Yves, allons-nous-en. Yves lui dit, je suis humain. Riquin ouvre le canif, ou plutôt le couteau pliant, et l'enfonce dans la peau. Yves ne réagit pas. Pas de sang. Il fait une entaille en forme de croix et soulève la croix pour montrer l'intérieur. On voit à la place des os une articulation en métal. Riquin lui dit, tu vois, tu n'es pas humain.
Si, je suis humain.
Riquin lui dit, un humain a des os.
Qu'est-ce que des os?
Si tu ne le sais pas, c'est que tu es un robot. Yves lui dit, si, je suis, je sais, c'est l'amour. Nicole pleure et crie,
c'est horrible ce que vous faites là.
Riquin lui dit, non, je le ramène à ce qu'il est. Je suis humain. Non, viens avec moi. Yves voit Nicole pleurer et lui demande, pourquoi?
Je suis humain, je suis humain.
Il regarde sa main et lui dit, l'amour, je suis humain. Il prend Nicole par la main, pousse Riquin et se met à courir.
Riquin court après eux. Yves ouvre le portail. Ils sortent tous les deux. Quatre hommes foncent sur eux. Ils retournent Nicole, la poussent à terre, entourent Yves et le maintient bien. Riquin arrive. Il dit,
je m'excuse d'avoir employé la matière de manière forte, mais il le fallait bien. Yves essaye de résister, mais les hommes le maintiennent bien.
Je suis humain. Je suis humain.
Il se débat comme il peut. Riquin dit, allez. On le pousse dans une camionnette. Ferme bien la porte.
Yves tape du poing, crie, hurle. Je suis humain, je suis humain, je suis humain.
Les quatre hommes et Riquin montent devant la camionnette qui est sur le devant comme un petit car.
Et ils ont mis en route la camionnette. Elle a tout juste eu le temps de se plaquer contre l'arrière de la camionnette en mettant ses pieds sur le pare-brise et sort maintenant par la portière. Elle se maintient comme elle peut en équilibre. Elle voit du hublot Yves hurler, taper.
Elle pleure et se dit, il est plus humain qu'eux, il est plus humain qu'eux, mon Dieu.
Thank you.
camionnette file sur les routes de campagne désertes. Heureusement qu'il n'y a pas trop de virages et qu'elle ne roule pas trop vite. Ils ont arrêté la camionnette devant une bâtisse en forme de cylindre. C'est une ancienne centrale atomique qui sert à brûler des déchets et à faire un peu d'électricité. Nicole saute de la camionnette et se couche sous la camionnette. Riquin et quatre hommes ouvrent l'envers pour faire sortir Yves. Un Yves furieux qui leur crie « Je suis humain ! Je suis humain ! Je suis humain !» Ils le prennent, le poussent, le mènent à la centrale. Riquin ouvre la porte. C'est cylindrique, blanc, et au centre, il y a une grande cuve pleine de flammes. La cuve est plus basse. Ils sont sur une passerelle qui fait le tour de la cuve. Il suffit de pousser de la passerelle les déchets dans la cuve et pour les enflammer, pour les mettre au feu. Riquin a acheté cette centrale pour brûler tout ce qu'il veut, par que l'on voie des corps déchiquetés humains, etc., de ses expériences. Il s'apprête à jeter dans le feu Yves, qui se débat de plus en plus. Non ! Il se retourne et voit Nicole. Et qu'un dit, mais qu'est-ce que vous faites ici ? Elle accourt et se plaque en larmes contre Yves. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Quelqu'un lui dit, c'est ridicule. Je vous en amènerai un autre. Le même. Non, c'est lui que j'aime. Elle se plaque contre Yves. Je ne veux pas. Je ne veux pas qu'on me tue. Je ne veux pas. Je veux mourir avec lui. Quelqu'un dit, Yves, emmenez-la. Amenez-la moi. Yves regarde la femme en larmes. Elle lui dit, tu vas mourir. Ils veulent te tuer. Tu ne verras plus rien. Tu ne verras plus rien. Alors le visage d'Yves s'illumine et dit, je comprends ce qu'est que l'amour. Deux hommes d'un coup tirent Nicole, qui tombe à terre. Yves n'a pas eu le temps de réagir parce qu'il a compris ce qu'était l'amour. Les quatre hommes en profitent pour le pousser dans le feu. Nicole se laisse rouler et tomber dans le feu. Ils n'ont pas poussé un cri et ont été brûlés de suite. Riquin dit « Merde, la fille, qu'est-ce qu'on va dire à la famille ?»
Un des hommes dit
« Essayons de la faire revivre. » Riquin dit « Espèce d'idiot, il ne reste plus rien, rien !»
Riquin raconte tout à Danfort dans son bureau.
Les hommes en ont profité du trouble d'Yves qu'il a eu en apprenant ce que c'était que l'amour pour le pousser dans le feu. Personne ne faisait attention à la fille qui s'est jetée elle aussi. Danfort lui dit « Ce qu'il y a d'étrange, c'est qu'il ait compris l'amour. » Riquin lui dit « Nos robots sont de très bonne qualité. » Et d'une très grande sensibilité, très proche de l'humain. Pour lui, il a dû comprendre ce que c'était que l'amour, par logique, en se basant sur plusieurs sensations en même temps, de bien-être, le désir de posséder, la peau, la peur, les larmes, et celle d'aller plus loin, de refuser ce que les autres veulent vous faire faire. Il l'a vu pleurer, dire non, se plaquer contre lui, et son intelligence a su se faire une idée de ce que voulait dire ce mot. En fait, c'est un bon point pour nous, cela prouve que nos robots ont une intelligence qui réfléchit, analyse. L'enfant lui demande, « Et pour les parents de la fille ?» Nous avons maquillé un corps et mis dans une chambre à la clinique et dit qu'elle avait un accident de voiture en voulant nous rejoindre, morte sur le coup. Danfort lui demande « Et vous en croyez ?» Il le fallait bien. Nous détenons 51% de leur entreprise et plongeons leurs dettes. La vue matérielle va les aider à surmonter la chose. Nous allons les combler de biens. Ils oublieront bien vite. Danfort lui dit « Donc, tout est pour le mieux. »
Un après-midi, une voiture noire s'est arrêtée devant l'ambassade américaine. Le chauffeur est sorti de voiture, ouvre la portière pour faire sortir une femme habillée d'un tailleur noir, chapeau,
chaussures et sac noir aussi. Elle porte sur sa veste de son tailleur une broche en forme de soleil stylisé. Elle a des cheveux blonds, elle est grande, mince, son visage est lisse de toute expression. Elle va devant la porte de l'ambassade. Elle pousse la porte et entre. L'ambassade est un hôtel particulier du 18e, hall d'entrée carré avec montée d'escalier. Un homme, grand, mince, cheveux gris, costume gris, vient à elle. Madame, vous désirez ?
J'aimerais voir l'ambassadeur.
Vous avez rendez-vous ?
Non, mais c'est très important.
Si vous n'avez pas rendez-vous,
elle lui dit, je vous dis que c'est très important.
Il lui sourit et lui dit, mais qui êtes-vous ?
Je suis Madame de Hautebord, la femme de l'ambassadeur du Vatican, de France, bien entendu.
Ah, bien, madame, attendez, je vais voir. Et il s'éloigne pour prendre les escaliers. Les lecteurs ont sûrement compris que cette dame n'était absolument pas Madame de Hautebord. Depuis plus de 20 ans que vous la connaissez. L'homme revient vers la femme. Et lui dit, « Monsieur l'ambassadeur veut bien vous recevoir, si vous voulez bien me le suivre. »
Elle le suit. Il monte les étages. Arrivé au premier, l'homme frappe à une porte. Entrez, madame. Elle entre. C'est une grande pièce meublée Louis XV, tapis sur le parquet, bibliothèque, etc. Fenêtre à double battant. Ambassadeur, qui est assis à son bureau, se lève en voyant la femme. Il est grand, mince, ses cheveux grisonnants, le visage rond et sympathique, habillé d'un costume gris et d'une cravate rouge. « Madame, vous avez demandé à me voir, me voici. Approchez-vous et asseyez-vous. » Elle s'approche. « Bonjour, monsieur. » Elle s'assoit dans le fauteuil qui est en face du bureau.
L'ambassadeur lui dit, « Je vous écoute, madame. » Vous êtes Madame de Hautebord, la femme de Monsieur l'ambassadeur de France au Vatican. Elle lui dit, oui, Monsieur l'ambassadeur, je suis très heureuse de faire votre connaissance. Je n'ai pas encore eu la joie de rencontrer votre mari. Elle lui dit, il est très pris en ce moment. Je vous écoute.
Eh bien voilà, j'ai une information très importante qui pourra intéresser votre gouvernement. Monsieur Jeune-Tout, Jean, le fondateur du fameux groupe que vous connaissez,
l'ambassadeur lui dit, oui, je connais fort bien, hélas pour mon pays. Elle lui dit,
eh bien, ce monsieur a eu un fils, et que celui qui dirige l'affaire, qui est l'héritier de Jeune-Tout, a pris la place du fils sans le savoir. C'est le fils qui devrait être à sa place, à la tête du groupe. Le fils Jeune-Tout ne sait pas qui il est. Et moi, je vous dirai qui est le fils Jeune-Tout en échange d'une grosse somme, d'avoir la possibilité de vivre en Amérique sans avoir à payer d'impôts et en ayant l'humilité pour tout ce que j'ai fait et ferai.
L'ambassadeur est surpris, il lui dit, « C'est sûr ce que vous allez nous dire ?»«
Oui !»
Il lui dit, « Je ne peux pas prendre de ces décisions moi-même. Il faut que j'en parle à mes supérieurs. Revenez dans 15 jours à la mémoire, madame. » Il n'aime pas les mouchards,
les donneurs, les espions.
Il se lève, elle se lève.
Monsieur, dans 15 jours, et si tout va bien, je vous donnerai le nom de l'héritier.
Oui, c'est cela.
Et elle quitte le bureau.
Bigre, quelle femme! Elle va me donner du travail supplémentaire.
Il écrit, avec un message codé, à son ministre des Affaires étrangères. Le ministre donne la nouvelle à la Maison Blanche et à la CIA. La CIA dit
« Il faut absolument connaître l'héritier. C'est une très bonne chose que de déséquilibrer la France qui est devenue une superpuissance mondiale. »
La Maison Blanche envoie l'affaire au ministère des Affaires étrangères qui l'envoie à l'ambassadeur. La femme en noir, que nous n'allons pas appeler Madame de Hautebord parce que nous savons que ce n'est pas elle, revient à l'ambassade. L'ambassadeur la reçoit.
Entrez. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Venez vous asseoir, madame.
Et lui dit, mes supérieurs disent que ces renseignements intéressent l'Amérique et acceptent vos propositions. Je vous écoute, madame.
Elle lui dit, je veux d'abord être sûr.
Il lui dit, moi, je veux aussi. Être sûr, il faut bien que l'un de nous deux commence. L'Amérique ne peut pas s'abaisser. Parlez.
Elle lui dit, eh bien, c'est Philippe Diap, le véritable héritier. On s'est trompé de cousin.
Comment?
Elle lui dit, la mère de Philippe, à un de ses séjours à Paris, a connu Monsieur Genetou. Ils ont eu une très courte liaison, mais qui a été suffisante pour qu'elle soit enceinte de lui. Elle ne l'a dit à personne et n'a jamais cherché à le revoir.
L'ambassadeur lui dit, pouvez-vous nous donner une preuve de ce que vous avancez?
Oui, bien sûr.
Quelques jours plus tard, Philippe, à Lyon, le soir, avant d'aller se coucher, aime bien marcher un peu dans la ville pour se détendre un peu. Sa mère n'aime pas qu'il sorte. Et chaque fois qu'elle le voit se préparer, elle va vers lui.
Elle lui dit, fais attention à toi. Ne va pas avec n'importe qui. J'ai lu dans des livres des choses de ces rencontres. C'est très dangereux.
Mais mère, de quoi parlez-vous?
Je le sais, mon petit, depuis que je le sais, toi et Galien. Je me suis renseigné. N'oublie pas de te préserver et ne prends pas trop d'argent sur toi.
Il hausse les épaules et lui dit
Je t'assure que je vais simplement me promener.
Et il sort.
Dehors, la nuit est douce. Il ne sort pas pour des rencontres, mais simplement pour prendre l'air. D'ailleurs, Galia lui suffit. Il y a peu de monde dans les rues, quelques voitures. Les magasins sont fermés, il n'y a presque pas de lumière. Seuls quelques cafés et restaurants restent ouverts. Philippe marche d'un bon pas sans regarder. Il passe devant un homme. Vous avez du feu ? Philippe sursaute. Il voit un homme dans les 25 ans, grand, mince, blond, le visage rond, yeux bleus, costume gris. Il lui dit: non, je ne fume pas. L'homme lui dit: j'ai de la chance, si je pouvais m'en passer. Vous n'avez jamais fumé? Non, jamais. Mais moi, c'est comme ça. Moi, je ne me suis même pas posé de questions. L'homme lui dit: moi, c'est pas la même chose. Tout le monde fumait. Alors, j'ai voulu essayer. Et voilà. Vous êtes de Lyon? Oui, et je suis né à Lyon. C'est très rare d'être né dans une ville et d'y vivre. Les gens vont, viennent beaucoup. C'est la misère qui les rend nomades. On est nomade parce qu'on n'a rien et que l'on cherche. L'homme lui dit: vous avez raison. Moi aussi je suis un peu nomade. Philippe lui dit: vous êtes d'où? D'Amérique, de Philadelphie. C'est loin? Oui. Et qu'est-ce que vous faites ici? Je fais de la protection pour mon métier. Philippe lui dit: dans les affaires? Pas vraiment. Je m'appelle Philippe. Moi, Ted. Vous vous promenez? Philippe lui dit: oui. Pourquoi? Parce que ça soit une personne qui se promène, même si elle marche vite. Philippe lui dit: et vous? Moi aussi, j'aime bien marcher, même en Amérique. J'aime beaucoup. Je peux marcher avec vous? Oui, pourquoi pas. Vous allez dans quelle direction? Philippe lui dit: aucune, et vous? Moi de ce côté. Eh bien, allons-y, dit Philippe. Et ils y vont. Tedma demande: vous vivez seul? Non, chez mes parents. Parce que c'est plus pratique pour vous? Oui, et puis je ne peux pas chercher un appartement. Je ne travaille pas. De toute façon, mes parents ont une grande maison. Et nous ne nous gênons pas. Et il continue à marcher. Au bout d'un moment, Ted dit: c'est ici que j'habite. Il monte la porte d'un immeuble cossu de 4 étages. Philippe lui dit: bon, eh bien, au revoir. Ted lui dit: attendez. Nous pouvons encore rester un moment ensemble. J'ai du bon vin. Philippe lui dit: mais j'avais peur d'aller chez un étranger? Non, pas du tout. Oh, et puis oui, mais pas longtemps. Ted sourit.
Et il ouvre la porte de son immeuble avec une clause. Fais entrer Philippe.
L'allée est une grande allée cossue, avec des escaliers de pierre larges, une belle rampe. Philippe dit: Vous habitez un bel immeuble. Vous devez avoir pas mal d'argent. » Telle lui dit. « Et vous ?»«
Non ?»
Philippe pose les épaules et lui dit. « Moi, je ne travaille pas. Je n'ai rien. » Telle lui dit. « Si, vous avez la liberté. C'est au troisième. Allons-y. » Il monte les escaliers jusqu'au troisième.
Au troisième étage, Ted va voir son appartement qui est la porte de droite. Il ouvre, éclaire, entrée. Philippe entre, Ted ferme la porte. Hall d'entrée. C'est un 4 pièces spacieux, très élégant, avec du plancher à la française à terre. Les meubles sont Louis XV. Vous devez me dire. Pourquoi est-ce qu'il nous amène toujours dans des endroits aussi luxueux? Je vous dirais que c'est pour vous faire rêver, parce que je suis sûr que vous n'avez pas un logement aussi joli. Ted dit à Philippe, allons au salon, et ils y vont. Ted ouvre une porte vitrée. Entrez, Philippe entre. Très grande pièce, avec tout un angle en demi-cercle qui est tout autour du demi-cercle en baie vitrée. Cela fait un salon dans un salon avec un clavecin. Ted le mène au coin du demi-cercle. Asseyez-vous. Philippe s'assoit dans un fauteuil en tissu et bois. Ted demande, j'ai du Bourgogne, Cognac, Bordeaux, Beaujolais. Philippe lui dit, Bourgogne, merci, moi aussi. Mais il s'éloigne pour aller chercher la boisson. Dépose sur la table basse qui est en face de Philippe et sert. Tenez, merci. Puis il s'assoit en face de Philippe.
Philippe lui dit, cet appartement est à vous ?
Non, à mon employeur. C'est un pied-à-terre pour son personnel.
Votre employeur a les moyens.
Oui, assez. Mais vous, non plus, vous n'êtes pas pauvre.
Philippe lui dit, je ne suis pas riche non plus. Je ne travaille pas.
Ted lui dit, il ne suffit pas d'avoir une bonne profession. Il faut surtout être bien né.
Philippe lui dit, vous avez en partie raison. Si j'étais né dans une famille nécessiteuse, je ne vivrais pas aussi bien.
Ted lui dit, mais vous vivez moins bien que vous devriez vivre.
Philippe lui dit, vous cherchez à me flatter ou quoi?
Non, pas du tout. Encore un verre?
Philippe lui dit, c'est pour m'enivrer?
Non, pas du tout.
Parce que, avec les compliments,
alors un verre?
Philippe lui dit,
oui, votre vin est excellent.
Tenez, merci.
Et après l'avoir servi, il lui dit, je vous assure que ce que je vous dis est vrai.
Philippe lui dit, vous ne pouvez pas me dire la vérité là-dessus, puisque vous ne me connaissez pas.
Tel lui dit, je dois vous avouer, c'est que je vous connais. Et j'ai fait exprès de vous interpeller.
Vous êtes Philippe. Votre père s'appelle Yann, votre mère Chantal. Vous avez un cousin Galien qui est le président du groupe Jeune Tout Pontois.
Philippe lui demande, qu'est-ce que vous voulez au juste?
Moi rien, mais vous, l'on vous doit beaucoup.
Je ne comprends pas.
On vous doit une fortune,
En réalité, c'est vous qui deviez hériter du groupe Jeune Tout Pantois. C'est ridicule. Philippe se lève. Ted lui dit, parce que c'est vous l'héritier. Philippe lui dit, c'est faux, c'est Galien, la preuve, le testament. Ted lui dit, il y a eu erreur sur la personne. Asseyez-vous, je vais vous expliquer. Philippe s'assoit. Ted lui raconte sa mère, Paris, la naissance cachée, le vrai père. Philippe lui dit, c'est ridicule, vous mentez. Si, vous êtes le fils de Jeune Tout et son héritier. C'est faux. Non, c'est pas faux. Philippe lui dit, la preuve que vous dites la vérité. Ted lui dit, bien.
Il se lève. Il revient avec des papiers.
Hôtel où sa mère a habité, Jeune Tout, photo de tous les deux, les dates. Philippe regarde et dit, ça ne veut pas dire grand-chose. Ma mère le connaissait. Et alors?
Et alors? La porte s'ouvre. La femme en noir apparaît. Philippe est surpris. Il dit à Ted, je croyais que nous étions seuls. Ted lui dit, c'est une preuve supplémentaire. La femme vient vers lui.
Et lui dit, j'étais secrétaire particulière de Jeune Tout. Et j'étais au courant de tout, de ses rendez-vous, des fleurs à commander, des tables de restaurant, chambres d'hôtel. C'est Jeune Tout. Se faisait renseigner sur la femme de Lyon qui est partie de Paris en étant enceinte de lui. Il voulait reconnaître l'enfant, mais elle lui a dit non parce qu'elle le trouvait trop vieux. Puis le temps a passé. Jeune Tout ne parlait plus de cette aventure. Avant de mourir, se sentant vieux, il ne voulait pas que ses affaires s'éparpillent. Alors il a fait un testament. Il a pensé à son héritier, à son fils. Malheureusement, en faisant son testament, il a fait une erreur. Il a donné le prénom de votre tante qui avait le même nom de famille que vous. Parce qu'elle accompagnait votre mère et habitait le même hôtel. Comme il ne se souvenait plus du prénom de la femme, il a demandé à l'hôtel qui lui a donné le mauvais prénom. Voilà comment Galien a hérité à votre place. Philippe lui dit, c'est ridicule. Comment a pu-t-il se tromper alors qu'il connaissait mon prénom? Elle lui dit, non. Il n'a jamais connu votre prénom et ne vous a jamais vu. Il lui dit, c'est vous qui dites que je suis l'héritier. Mais comment le savez-vous? C'est peut-être Galien